Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, le 69e ce soir, Wagon Livre, votre émission littéraire, tous les mercredis à 21h sur Radion. La 15e fête du livre d'Autun s'est tenue les 14 et 15 avril dernier et nous vous proposons ce soir un compte-rendu de cette manifestation régionale dont l'écho est national. Autour cette année du thème « Mémoire » au pluriel « Mémoire » au singulier, une centaine d'invités au salon, une dizaine d'éditeurs bourguignons et un millier de livres présentés à ce rendez-vous gratuit, orchestré chaque année depuis 15 ans par les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois, présidée par Dominique Goujon avec les soutiens de la région Bourgogne, de la DRAC, du Conseil Général de Saône-et-Loire et de la ville d'Autun. Comme l'an passé, Radion était partenaire de cette 15e fête du livre dans la cité éduenne et nous vous offrons ce soir un aperçu de ce beau salon qui joue désormais dans la cour des grands événements culturels régionaux. Quatre auteurs avaient choisi Autun pour la sortie nationale de leur nouveau livre. C'est notamment le cas de deux auteurs autunois, Daniel Thévenin et Bernard Moreau-Gaudry, qui ont fait paraître un bel ouvrage sur le patrimoine industriel et qui s'attarde sur les ateliers et machines abandonnées, mais également sur le patrimoine des entreprises vivantes. Les ateliers DIM, les parapluies Nera, les câbles de Nexan, les chaises de Tolix, etc., etc. Un ouvrage dont la thématique mémorielle autunoise avait donc toute sa place à la 15e fête du livre d'Autun. Partons donc, si vous le voulez bien, à la découverte de Patrimoine industriel d'Autun avec des textes de Bernard Moreau-Gaudry et des photographies de Daniel Thévenin.
Je suis à Autun depuis 26 ans, je suis de la région de Châlons, j'ai fait mes Beaux-Arts à Besançon, et quand je suis arrivée à Autun, étant photographe depuis les Beaux-Arts, j'ai été passionnée par le patrimoine architectural et industriel de la ville d'Autun. Donc il y avait d'énormes industries qui avaient malheureusement perdu leurs ouvriers, Et ayant un appareil photo sans arrêt dans la voiture, j'ai fait depuis 26 ans des photos sur le patrimoine industriel. D'où cette idée de livre il y a quelques mois qui a jailli, il y a 6 mois. J'ai demandé donc à Bernard d'illustrer ses photos. Et il a accepté volontiers en abandonnant d'ailleurs, je crois, un roman qui était en cours.
J'avais un roman en cours et... Mais l'initiative de Daniel m'a passionné et j'ai dit j'abandonne tout et je travaille là-dessus.
Mais alors Bernard, tout de même le patrimoine industriel, on est, j'imagine, tout de même très loin de la sculpture, des beaux-arts. Est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique dans ce patrimoine industriel qui relèverait en tout cas d'une certaine beauté, d'une certaine grâce, peut-être des friches ou des vestiges d'une activité économique malheureusement disparue?
Mais je pense bien, il y a toute une poésie des friches industrielles, de ces bâtiments qui sont devenus fantomatiques, où on a encore une trace du travail et de la sueur des hommes. C'est intéressant. Et puis, pour un œil d'artiste, Daniel a photographié des pièces dans des entreprises qui sont des véritables œuvres d'art. Les ouvriers ne le savent pas, mais ils fabriquent des objets qui sont souvent absolument merveilleux. Et quand ils sont transfigurés par les photos de Daniel, ça peut être extraordinaire.
Alors, il y a aussi, il faut dire, un ouvrage qui a un format, ce qu'on appelle à l'italienne, une couverture bleue, qui d'ailleurs renverrait un peu à des connotations nautiques ou des profondeurs marines.
C'est exact. Je suis aussi une passionnée de tout ce qui est mer. Je fais aussi de la plongée. Donc quand j'ai trouvé, pour la couverture, quand j'ai trouvé cette toute petite pièce dans une friche industrielle, ça a été le déclic de ce livre. Et Bernard a joliment illustré toutes les photos avec des connotations un peu rigolotes, cocasses, etc.
Daniel Thévenin et Bernard Moreau-Gaudry, auteurs de Patrimoine industriel d'Autun, avec une préface du maire d'Autun, Rémy Reverotte, un bel ouvrage au format à l'italienne, disponible aux éditions du Sculpteur. Le descendant africain d'Arthur Rimbaud, tel est le titre du dernier roman de Victor Catemo, paru aux éditions Myriapode. Lui aussi, il a choisi la 15e fête du livre d'Autun pour présenter son dernier roman en sortie nationale.
Je m'appelle Victor Catemo, j'habite Bordeaux. Enfin, je suis un petit peu originaire de la Picardie, parce que je passais une grande partie de ma vie en Picardie. Et je suis né à Bukavu, par contre, Bukavu qui est à l'est du Congo, juste à la frontière du Rwanda, au bord du lac Kivu. Donc voilà, on raconte souvent que c'est une région où coulent les rivières des laits, qui coulent comme ça des montagnes. C'est une très belle région d'Afrique.
Et je suis très heureux, Victor Catemo, de vous rencontrer pour mettre en valeur votre dernier roman. Ce n'est pas le premier. Vous avez notamment reçu le prix du jury Saint-Estèphe. Alors là encore, on est dans le Bordelais, pour un roman qui s'intitulait « Étrange ballet des ombres ». Mais aujourd'hui, là, j'aimerais que vous nous parliez de votre dernière création. C'est un roman paru aux éditions Myriapode. Roman qui a pour titre « Le descendant africain d'Arthur Rimbaud ». Et là, voyez-vous, je trouve que vous avez une trouvaille exceptionnelle d'imaginer, c'est une fiction, qu'Arthur Rimbaud, qui est l'homme aux semelles de vent, qui a quitté la France, qui est parti, je crois, en Afrique, en Éthiopie.
Deux voyages, un premier voyage qui l'a amené notamment aussi à Aden, et puis... et en Éthiopie, deuxième voyage qui l'a amené particulièrement à Harare où il a vécu.
Voilà. Donc, et on sait aussi que Rimbaud, le poète adulé, a aussi
l'amant de Verlaine tout à fait, voilà,
a été aussi un trafiquant d'armes en Afrique. Enfin, il a survécu comme il a pu. Ne jugeons pas, tel n'est pas notre propos. En revanche, notre propos, cher Victor, c'est que vous avez imaginé. Et on le sait, d'après la biographie, c'est que Rimbaud a eu des amours africaines.
Ah, tout à fait. Les historiens racontent même que Rimbaud s'est marié en Afrique. Donc, il a vécu avec une femme qui, pour l'anecdote, était musulmane de religion. Donc, et il a eu beaucoup de maîtresses. Enfin, c'est ce qu'on raconte, en tout cas. Et moi, je suis parti de là pour... Et imaginez qu'avec l'une de ses maîtresses, Rimbaud a eu un enfant. Donc voilà, un enfant métis. Et je raconte dans ses livres le parcours d'un descendant africain d'Arthur Rimbaud qui décide, si vous voulez, d'entreprendre le voyage de Rimbaud, mais dans l'autre sens. Rimbaud, il est parti de France pour aller en Afrique. Et lui, il décide de partir d'Afrique pour venir en France sur la terre de son ancêtre. Donc voilà. Alors, l'Afrique s'est ouverte à Rimbaud. Donc voilà, l'Afrique a accueilli Rimbaud les bras ouverts. Mais par contre, lui, il arrive en France clandestinement sur un bateau et il se retrouve confronté à des problèmes administratifs incommensurables. Donc voilà. Et il fait tout et il passe par toutes les voies, si vous voulez, qu'empruntent tous les gens qui arrivent clandestinement pour arriver à régler leurs problèmes administratifs et à vivre normalement en France. Donc je raconte un peu tout ça. C'est ce qui en fait de ces livres aussi un livre sur l'immigration, tout simplement.
Oui,
Pour moi, en réalité, les descendants africains d'Arthur Rimbaud, c'est qui ? C'est l'Africain francophone. Et c'est là où la fiction rejoint la réalité. Et c'est ce qui rend tout ça beaucoup un peu merveilleux.
Victor Catemo, au micro de Radion, pour son dernier roman, Le descendant africain d'Arthur Rimbaud, disponible aux éditions Myriapode. Je vous informe que mercredi prochain, 9 mai à 21h, nous vous proposerons une seconde émission de compte-rendu de la 15e fête du livre d'Autun avec des interviews notamment de Zoé Valdez, romancière et scénariste née à Cuba, Alma Brami, l'actrice et animatrice de télévision Jacqueline Monsigny, ou encore Françoise Laborde qui a longtemps présenté le journal télévisé sur France 2. Vous pourrez également entendre l'animateur et journaliste polyglotte Nelson Montfort pour une évocation tendre et affectueuse du poète-chanteur Jean Ferrat disparu en 2010. C'est la semaine prochaine à 21h sur votre radio locale Radion au cœur de la Bourgogne.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Je vous l'ai dit en début d'émission, la 15e fête du livre d'Autun, les 14 et 15 avril dernier, avait retenu le thème de la mémoire et des mémoires. C'est la raison pour laquelle, auparavant, vous aurez vraisemblablement reconnu le fameux titre de Jeanne Moreau, « J'ai la mémoire qui flanche ». La mémoire, c'est aussi celle de nos ancêtres, c'est bien évidemment la généalogie. Or, le pape de la généalogie en France était une des principales têtes d'affiche du Salon de la Cité et du Aisne. Il s'agit de Jean-Louis Beaucarnot qui, dans son dernier ouvrage dont il va nous parler, évoque notre classe politique et nous permet de découvrir de curieux cousinages et d'étonnants ancêtres. Jean-Louis Beaucarnot rappelle à notre micro ses origines morvandelles, lui qui est né à 20 km au sud d'Autun, à Saint-Symphorien de Marmagne.
Oui, j'y suis né. Je suis un des derniers à être né dans la commune, commune de 800 habitants. Après, les autres sont nés en maternité. Et j'y ai passé mon enfance jusqu'à aller faire des études universitaires à Dijon.
Alors effectivement, lycée du Creusot, faculté de Dijon, vie professionnelle à Paris. On vous a entendu sur de grandes ondes, RTL notamment, où là vous avez démocratisé la généalogie auprès du grand public.
Oui, c'est vous qui le dites, mais je pense que c'est le cas et j'en suis très très fier. Enfin bon, je croyais pas y être arrivé. Enfin, je ne croyais pas y arriver. J'y suis arrivé. La généalogie m'a porté, je l'ai porté. Nous nous sommes portés mutuellement, mais aujourd'hui, c'est quand même un des grands hobbies culturels des Français.
Ce qui est incroyable, c'est la manière. De quelle manière vous êtes devenu finalement ce pape de la généalogie? Enfant, c'est en voyant.
Un arbre généalogique
dans une bande dessinée que
à l'âge de 11 ans, le divan du psy était là et plutôt que d'aller sur des divans du psy, j'ai fait de la généalogie. Mais bon, mon destin m'attendait un peu ce jour-là. Mais bon, bah après, on réécrit pas l'histoire. Oui, c'est sûrement extraordinaire, mais après, je regarde plutôt devant que derrière.
Alors, en ce moment, aux éditions de l'Archipel, donc vous signez un livre dont on a beaucoup parlé, avec amusement aussi, Le Tout Politique, avec comme sous-titre Origine, cousinage, parcours. Personnalité et indiscrétion, c'est un livre que vous avez écrit en collaboration avec un journaliste.
Avec plusieurs auteurs.
Plusieurs auteurs pour les indiscrétions.
Oui, non, la pour généalogie, les éclairages complémentaires. J'ai travaillé notamment avec une graphologue dijonnaise qui s'appelle Marie-Françoise Barbeau, qui est connue elle aussi comme auteure dans d'autres domaines. Mais nous sommes mis à plusieurs pour essayer de visiter, de voir, d'éclairer autrement les leaders, les hommes et les femmes politiques, pour essayer de les voir sous des jours sous lesquels nous ne les voyons pas, et ce qui très vite les rend beaucoup plus humains.
Alors François Hollande a des ancêtres à Clamecy et du côté de Coulanges-sur-Yonne.
François Hollande avait des ancêtres qui étaient flotteurs de bois. Du côté de sa mère, on passe par la région de Gien dans le Loiret, puis ensuite on arrive à Coulanges-sur-Yonne avec ses flotteurs de bois, ses compagnons de rivière comme on les appelle, et puis on a un qui épousait la fille d'un chirurgien, une famille de petits notables, etc. Et quand on remonte comme ça du côté de la famille du chirurgien, on arrive à Moulins-en-Gilbert, sur des familles, je me disais, mais ceux-là j'ai déjà rencontré. Effectivement, on découvre que François Hollande a des ancêtres communs avec Bernadette Chirac à Moulins-en-Gilbert.
Incroyable. Et alors, on découvre aussi dans votre livre que Jean-Louis Borloo a un cousinage avec Marine Le Pen.
Oui, pas par la Bourgogne, par la Bretagne. Parce que sa grand-mère était bretonne et Marine Le Pen est, comme son nom l'indique, bretonne. Mais bon, le plus fort, vous savez, je n'y croyais pas et c'est la deuxième édition qui m'a permis de le révéler parce que à la première, ça m'avait encore échappé. J'ai réussi à trouver un cousinage, non seulement entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Là, je me suis pincé pendant une journée parce que j'ai mis plus longtemps à le vérifier qu'à le découvrir. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai tout vérifié. Et là, je me suis pincé longtemps en disant, mais je rêve. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Lorsque j'ai voulu rajouter dans ma dernière édition Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, j'avais déjà Carla Bruni. J'ai fait sa généalogie. Elle a dénoncé trop Creusot. Par le Creusot, elle est cousine avec une dame qui est très connue pour son chapeau, qui s'appelle Madame de Fontenay, Geneviève de Fontenay. Et puis en remontant plus loin, on va dans la Loire. On arrive dans la Loire, dans des petits villages où j'avais déjà rencontré les ancêtres d'un autre personnage, un autre héros de mon bouquin, Carla Bruni. Je me suis dit, c'est pas possible. Nous sommes dans le même secteur. Est-ce que par hasard, ben oui. Et elles descendent toutes les deux d'un monsieur Baratin. Baratin, faut quand même le faire et le trouver.
Très fort, très fort.
Et Carla Bruni... Et là, je me suis passé 3 jours.
Et Carla Bruni est plus française que son mari.
Elle a un peu plus d'ancêtres français que son mari, oui.
Jean-Louis Beaucarnot, à notre micro. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage, Le tout politique, sous-titré Origine, cousinage, parcours personnalisé, indiscrétion, aux éditions de l'Archipel. Je vous renvoie également à l'interview du pape de la généalogie dans le dernier numéro, le numéro de printemps du magazine associatif Vent du Morvan. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, toujours sur Radion, pour la suite du compte-rendu de la 15e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 14 et 15 avril dernier. Je vous laisse en très bonne compagnie puisqu'il s'agit de Florent Pagny, Ma liberté de penser.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Hey! Hey! Je peux vider mes poches sur la table. mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Hey, je veux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
Compte rendu de la 15e fête du livre d'Autun ce soir à bord de votre rendez-vous littéraire. Place aux éditions de l'Armançon avec trois auteurs rencontrés au stand de cette maison d'édition bourguignonne créée il y a 25 ans par Chantal et Gérard Gauthier, maison d'édition établie à Précy-Soutil en Côte d'Or. Plusieurs auteurs publiés à l'Armançon étaient présents à Autun, notamment Lucette Desvignes, Gérard Calmette, Joseph Gadré ou encore Didier Cornaille. Nous donnons d'abord la parole à l'auteur de La Bataille de Nuit, un roman historique signé Alain Fauconnier.
Je suis professeur des écoles, donc dans l'éducation nationale, et à mes moments libres, souvent je fais des recherches historiques parce que je suis passionné d'histoire. Et un jour, j'ai découvert qu'à Nuit-Saint-Georges, il y a eu une bataille pendant la guerre de 70. Donc l'événement m'a passionné, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires. Et après, je me suis demandé ce que j'allais faire avec toute cette somme de documentation. Et l'idée m'est venue d'en faire un roman historique plutôt que d'en faire une plaquette un peu austère pour présenter la bataille. Donc j'ai bâti une intrigue autour de l'événement.
Et donc le titre, je le rappelle, La Bataille de Nuit, signé donc d'Alain Fauconnier aux éditions de l'Armançon, livre que l'on peut se procurer auprès des libraires indépendants. Je dirige mon micro cette fois-ci vers, j'allais dire, une figure prestigieuse du monde des lettres en Bourgogne, Michel Lagrange. Votre modestie dut-elle en souffrir ? Ça vous embête si je parle de vous comme d'une figure prestigieuse du monde littéraire bourguignon ?
Oui, ça me gêne, sans fausse modestie, parce que je ne suis qu'au service d'une cause peut-être idéale, mais j'essaie d'être à la hauteur, mais bon.
Alors, je rappelle quelques petits éléments vous concernant, Michel Lagrange. Vous êtes agrégé de lettres modernes, classiques ?
Classique, oui.
Vous avez été un militant en poésie, vous l'êtes toujours, vraisemblablement ?
Je suis essentiellement acteur, disons, d'une écriture et d'un regard poétique, oui.
Et vous avez tout de même rencontré de grandes figures de la poésie française. Vous me disiez que très récemment encore, vous avez reçu une lettre du poète Yves Bonnefoy.
Oui, ce sont des gens que j'appelle des tutélaires. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai démarré et qui me suivent encore aujourd'hui. Ce sont des oasis dans le désert prosaïque que nous vivons.
Alors Michel Lagrange, vous venez de faire paraître aux éditions de l'Armançon un récit très largement autobiographique, j'imagine, éclat d'enfance, mémoire d'un Dijonnais. Vous renouez avec votre passé, vous tirez le bilan.
C'est la deuxième fois. Le premier essai, disons, d'une rétrovision, c'était Les morts de Sébastien d'Angers aux éditions Galilée. Là, c'est le deuxième, sont des flashs de mémoire de la prime enfance. C'est une sorte de travail d'archéologie. Dans l'amnésie apparente, sont des trouvailles, disons des inventions, comme on dit pour un archéologue, de flashs de mémoire. Le livre est à deux visages, si je puis dire. Il y a ce côté prosaïque de scènes retrouvées, et puis en même temps une réflexion poétique sur la mémoire et sur l'oubli qui nous constitue.
Éclat d'enfance, sous-titré Mémoire d'un Dijonnais de Michel Lagrange aux éditions de l'Armançon. Et puis le dernier auteur, Armançon, mais que nous connaissons bien dans Wagon Livre, on a déjà eu l'occasion de lui donner la parole, c'est Ignacio Catalan, c'est le pays d'Arnel Duc.
C'est le pays d'Arnay, c'est la Bourgogne en général, effectivement, mais un peu plus attaché, effectivement, autour du pays d'Arnay, du Morvan.
Alors, Ignacio Catalan, pas vraiment de nouvelles publications cette année, en tout cas. Vous êtes en préparation avec d'autres textes?
Alors ça, je vous demanderai d'en discuter avec mon éditeur, parce que c'est lui qui a tous mes derniers travaux sous le coude. Et ben j'attends la suite, voilà.
On verra peut-être pour le 25e anniversaire des éditions de l'Armançon un prochain ouvrage d'Ignacio Catalan. Vous avez beaucoup publié aux éditions de l'Armançon.
Le dernier, là, Les petits métiers bien tranquilles, doit être effectivement le 7e.
Et puis il y a toute une trilogie autour du travail de la sculpture à l'époque romane.
Médiévale, oui, tout à fait, oui. Avec la... D'abord la naissance de l'art cistercien, et puis un ouvrage sur Klaus Luther, qui était un sculpteur flamand à la cour de Philippe le Hardy.
Et qui vous a valu d'ailleurs un prix ?
Le tout premier, pas le Luther, mais en revanche le Chant des Pierres, qui évoque le passage de Saint-Bernard novice à Citeaux, a eu effectivement le prix du Lions Club International pour la région.
Et donc ces petits métiers bien tranquilles, ce sont des métiers aujourd'hui totalement disparus. Les métiers d'aujourd'hui ne sont plus tranquilles.
Pas totalement disparus, parce que je pense que des sabotiers ou des vendangeurs, il y en a encore. Mais c'est vrai que les métiers, ce sont des métiers qui ont tendance à disparaître. Mais ce sont des nouvelles, hein, donc c'est un livre un petit peu avec deux optiques. C'est-à-dire que d'une part, la description de ces métiers qui disparaissent, et puis d'autre part, un traitement avec, un peu d'humour noir. Parce que si les métiers sont intéressants à expliciter, mes personnages ne sont pas toujours très recommandables. Voilà.
En 2005, vous avez fait paraître les contes de la jument Lina. J'aimerais tout de même que vous nous rappeliez ce fait divers ancien à partir duquel vous avez brodé un certain nombre de contes.
Oui, ce sont des nouvelles là aussi sur Arnay-le-Duc, mon pays natal donc. Et j'ai pris comme fil conducteur cette jument Lina qui est au 15e siècle avait été condamnée comme complice passif d'un brigand de grand chemin à être brûlée vive avec lui sur la place du village. Alors le bonhomme, sans aucun scrupule, on a brûlé sur la place. En revanche, on a un peu plus de scrupules pour la jument qu'on a amnistiée au dernier moment.
À l'instant, trois auteurs des éditions de l'Armançon dont vous pouvez consulter le riche catalogue sur son site internet www.edition-armançon.fr et ainsi retrouver les références des ouvrages dont il a été question il y a quelques minutes. Maison d'édition établie à Dijon cette fois-ci. Les éditions Raison et Passion que dirige Claude Resky. Claude Resky est venu à Autun les 14 et 15 avril dernier avec quelques auteurs de sa maison d'édition afin de mieux se faire connaître. À commencer par Michel Hubert, agrégé de géographie et docteur en sciences de l'éducation. Il écrit des ouvrages qui associent grande et petite histoire, notamment pour valoriser le patrimoine bourguignon.
Oui, et le valoriser dans une perspective qui est de faire connaître aux gens de la région l'histoire de leur région, dans un but presque de formation de leur citoyenneté. On ne peut pas se situer dans le monde d'aujourd'hui si on n'a pas connaissance de ses racines. Et par exemple, ce qui m'a intéressé dans « Mémoire d'une route millénaire »,
c'est... Vous disiez, pardonnez-moi, « Récit historique vraisemblable entre Bourgogne et Franche-Comté ».
Parce que cette route qui passe devant chez moi est une ancienne voie romaine qui a servi aussi de limite entre la comté de Bourgogne et le duché de Bourgogne. Et à un moment donné, entre le royaume d'Espagne, puisque la Franche-Comté était espagnole, et le royaume de France, le duché de Bourgogne. Et là, cette route a été fréquentée par des personnages illustres, et j'ai essayé de les faire revivre. En même temps, il s'agit de 12 récits qui vont de la préhistoire jusqu'à la Résistance, et qui permet d'avoir un peu une vision diachronique du temps historique et des évolutions en cours.
Voilà. Alors, Chronique du Jacquemart, vous nous emmenez là, effectivement, à ce qui est un des emblèmes de Dijon. Un petit mot sur cette chronique du Jacquemart. Là aussi, ce Jacquemart témoin de différents événements qu'il raconte.
Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que les Dijonnais, puis les Bourguignons d'une façon plus large, bon, sont assez sensibles à ce personnage du Jacquemart, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Je ne parle pas de son histoire mouvementée, de Courtrai jusqu'à Dijon, mais aussi de la rupture technologique qu'il introduit dans l'histoire de nos techniques. Et la petite horloge qui permet d'animer ce Jacquemart, en fait, va nous amener jusqu'à l'ordinateur, à travers le langage numérique. Et donc, c'était une, à tel point qu'un historien du Moyen-Âge célèbre, qui s'appelle Jacques Le Goff, a dit que les Jacquemart étaient plus importants que l'imprimerie à cette époque. Car ils ont un effet beaucoup plus radical, notamment à travers une laïcisation et une rationalisation du temps, qui avait une influence sur la vie quotidienne des gens. Alors que le livre, il a fallu un siècle pour que progressivement le livre imprimé entre dans les lectures des classes aisées.
Chronique du Jacquemart, donc de Michel Hubert, que l'on vient d'entendre au micro de Wagon Livre. Et c'est aux éditions Raison et Passion. Et on rappellera aussi donc Mémoire d'une route millénaire, récit historique vraisemblable entre Bourgogne et Franche-Comté chez le même éditeur. Et on se tourne vers un autre auteur de la maison d'édition Raison et Passion, Laurent Cachard, jeune auteur, prometteur, puisque effectivement un de ses romans intitulé La partie de cache-cache est sélectionné par les rencontres du deuxième titre à Grignan cette année. Laurent Cachard, voilà des débuts plus qu'encourageants et prometteurs aussi pour l'éditeur.
Bah, complètement, dans la mesure où moi les deux premiers romans que j'ai édités, enfin que j'ai fait éditer, ont été sélectionnés par des jurys de lecteurs. Le premier par Lettres Frontières et le deuxième par les rencontres du deuxième titre de Grignan. Donc pour moi c'est une reconnaissance de mon travail effectivement. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la suite, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a une unité de recherche, d'écriture et puis de travail avec l'éditeur qui fait que jusqu'à maintenant, on est tombé juste, du moins vis-à-vis des lecteurs, quoi.
Trois romans, une pièce de théâtre. Donc la pièce de théâtre, certaine audace, Don Juan revenu des enfers. Ça, c'est à mon avis aussi très très intéressant. Et puis donc. Le roman le plus ancien, c'est Le Poignet.
Non, c'est le plus récent, celui-ci.
C'est le plus récent, Le Poignet d'Alain Larouki. Alors, le plus ancien...
Le plus ancien, c'est Tébessa 1956.
Voilà. Donc, là, vous revenez sur une période de l'histoire que vous n'avez pas connue vous-même.
Bah, absolument pas. Donc, en fait, moi, je travaillais absolument différemment. C'est-à-dire que j'ai travaillé à partir d'un cadre historique, à partir des 6 mois passés par un jeune appelé en Algérie, qui est arrivé en novembre 55 et qui, en avril 56, est pris dans une embuscade et qui va perdre la vie dans cette embuscade. Donc, moi, j'ai retravaillé son parcours sur les 6 mois. Donc, c'est relativement court. Et puis, à partir de là, j'ai défini donc un cadre historique strict. Et à partir de là, j'ai fait intervenir le roman. C'est-à-dire que je parle à la première personne. Donc je m'empare de la personnalité d'un jeune de 20 ans qui est pris dans une embuscade et qui, devant la brutalité et l'absurde de sa mort à venir, refuse complètement la situation et en pensée s'évade sur les pentes et les places de son quartier d'enfance qui est le quartier de la Croix-Rousse à Lyon.
Alors je vais vous inviter à nous parler un peu de la partie de cache-cache, tout un programme. Je rappelle donc sélection des rencontres du deuxième titre cette année à Grignan, de Laurent Cachard au micro. Alors
oui, alors la partie de cache-cache, ça se passe dans le Berry, parce que moi j'aime bien délocaliser. Alors je fais pas forcément, je suis pas un auteur qui travaille sur le local, puisque mon premier roman se passe sur la Croix-Rousse à Lyon, le deuxième dans le Berry et le troisième dans le Béarn. Donc au moins qu'on aille me chercher quelque part, on ne trouvera jamais. Et la partie de cache-cache, pour le dire, c'est un jeune enfant solitaire dont les parents invitent les camarades d'école pour son anniversaire et qui leur propose une partie de cache-cache à l'envers, c'est-à-dire qu'il leur propose d'aller se cacher et aux autres de le trouver. Sauf que comme il est dans son royaume, dans son terrain, évidemment personne ne le trouve et les enfants se lassent les uns après les autres et s'en vont. Et il ne reste que deux personnes à le chercher. Il y a son grand rival, donc ils ont 11 ans, hein. Il y a son grand rival qui le cherche et qui refuse absolument de ne pas le trouver. Et au milieu, entre les deux, il y a une petite fille. Et c'est un roman qui est construit avec une intensité grandissante, comme une tragédie, en fait. Et Et à travers la pensée ou les pensées des enfants de 11 ans, on retrouve toute une métaphysique qui, en fait, interroge le monde des adultes. Et comme ça se passe dans le Berry, c'est une terre de secrets, de sorcellerie. Et voilà, complètement. Et d'ailleurs, il y a des mares, il y a des marais, il y a tout ce qu'il faut. Je ne vais certainement pas raconter ce qui se passe dans ce roman-là, mais ça veut dire que la partie de cache-cache grandit. En tout cas, au fil de la lecture, on attend de retrouver ou de voir la personne qui se cache. Et puis, il y a une intensité dramatique qui grandit.
On signalera, toujours aux éditions Raison et Passion, le roman de Christian Amstadt intitulé « Les larmes d'Agathe ». Pour plus d'informations, pianotez sur votre ordinateur et rendez-vous donc sur le site de cette maison d'édition www.raisonetpassion.fr. Petite escale musicale avant de donner la parole à deux auteurs dont les ouvrages sont publiés aux éditions Mutine, que l'ancienne institutrice Marie-Thérèse Mutin a créée en 1995 et qu'elle anime avec énergie et enthousiasme aux côtés de ses adhérents. Mais avant de découvrir deux des auteurs des éditions Mutine, sans S à la fin de Mutine, s'il vous plaît, nous écoutons d'abord Eddie Mitchell et nous partons sur la route de Memphis.
Dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Pour une fois, les flics ont gagné. Vers chez toi, je ne sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
Radion à Auxerre 95.
Suite de notre compte-rendu du Salon du Livre d'Autun, 15e édition d'une belle manifestation régionale qui résonne également nationalement. C'est l'occasion de saluer tous les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois, présidée par Dominique Goujon, que nous saluons très chaleureusement. Rencontre avec deux auteurs des éditions Mutine. Voici d'abord un auteur de polar, Nathalie Garance.
Bien donc, j'enseigne la philosophie dans les Yvelines. Je me suis mise au polar en 2008. Ce qui m'intéresse en fait dans le roman policier justement, c'est la question des mobiles. Ces avantages, ceux-là qui m'intéressent par rapport à l'intrigue qui est relativement secondaire. J'aime beaucoup aussi la dimension des personnages. En tant que lectrice de polar, j'apprécie de pouvoir m'immerger dans un univers, l'univers d'un auteur et dans l'univers des personnages. Donc, c'est un peu le sens de mon travail sur ces deux premiers romans.
Alors, un peu comme Balzac, vous avez un personnage qui revient comme ça d'un roman à un autre, mais bon, c'est un petit peu le principe d'une série quand on écrit des romans policiers. Vous avez créé le personnage, le commissaire Jules Hélé. Et alors, Jules Hélé réapparaît notamment dans votre deuxième roman policier qui a pour titre Folcoche. Clin d'œil, vraisemblablement, à Hervé Bazin, hein, au personnage de Vipère au Poing. Et donc, nous sommes à Rouen, parce qu'en plus, vos personnages évoluent géographiquement. À Rouen, où Jules Hélé a été muté, après Rouen, il est muté à Clermont-Ferrand. Et là, il est confronté à un tueur artiste qui laisse ses cadavres nus, éventrés et disposés comme les personnages du tableau de Bruegel, Le Pays de Cocagne, qui est reproduit sur la couverture de votre roman.
Oui, je me suis beaucoup amusée avec ce texte, puisqu'en fait, on a un meurtrier qui va s'inspirer de façon très, très libre de ce tableau, que j'aime beaucoup. Et voilà, le commissaire donc est contraint de faire le parallèle entre une série de meurtres et cette image qui s'impose à lui de plus en plus, qui représente donc trois personnages, effectivement, dans un univers apparemment extrêmement luxueux, avec beaucoup de nourriture, des choses très, très agréables à l'œil, et qui, en fait, quand on le regarde de très près, s'avère être un véritable cauchemar. Donc il est lui-même immergé dans ce cauchemar, dans ce tableau cauchemardesque de Bruegel.
Est-ce que vos élèves lisent vos romans policiers et savent-ils que vous vous êtes donné à l'écriture de romans policiers ?
Pas du tout. C'est un petit peu une question de déontologie, c'est difficile de dire à des élèves qu'on écrit des romans. Mais bon, je pense que certains l'ont appris effectivement un petit peu plus tard et on en a parfois discuté, oui.
Nathalie Garance n'est pas un pseudonyme.
Si.
C'est un pseudonyme.
Absolument.
Bon, on va vous laisser en rappelant donc vos deux romans policiers. Chronologiquement, le premier c'est Le sourire de l'ange, le second Folcoche, et c'est aux éditions Mutin, créées par Marie-Thérèse Mutin. Et nous nous tournons cette fois-ci vers la marquise de Sévigné du monde des camionneurs. Il s'en expliquera parce que c'est un homme qui va maintenant s'exprimer, c'est Bernard Châtelet. Bernard Châtelet, vous êtes vous aussi auteur aux éditions Mutine. Un premier roman dont le titre et l'intrigue sont assez exceptionnels, Mamie H, comme H comme hachiche,
oui,
tiré d'un fait divers.
Oui, tiré d'un fait divers. Bon, je vais d'abord dire que c'est pas le premier roman chez Mutine, ça doit être le quatrième ou le cinquième, je crois.
Ah, pardon.
Non, mais c'est pas un détail. Tiré d'un fait divers, oui, c'est une commande que l'on m'avait passée d'une troupe de théâtre. Tiré d'un fait divers, donc une grand-mère, je crois, à la Cité des 4000, en banlieue parisienne, qui avait 75 ans, a été prise en flagrant délit de vente de produits illicites, à savoir de l'herbe. On m'a demandé d'imaginer comment une dame qui avait une éthique et une moralité a pu arriver à ça. Donc j'ai essayé d'imaginer, c'est tout.
Et alors pourquoi êtes-vous la marquise de Sévigné du monde des camionneurs, Bernard Châtelet ?
Eh bien, j'ai eu un métier que j'ai arrêté à 53 ans. J'étais transporteur routier, donc j'ai vécu dans ce monde des camions, de la route, tout ça. Et disons que cette phrase, c'est une phrase qui m'a échappé au cours d'une interview à une journaliste une fois.
Méfiez-vous des journalistes.
Oui, oui, maintenant je fais très attention à ce que je dis.
La preuve d'un bon revient, c'est un boomerang.
Voilà, et donc ça a fait la première page du Progrès de Lyon avec ce titre-là.
Ah, la formule était fort bien trouvée.
Oui, mais j'ai eu du mal à l'assumer au début, mais maintenant j'assume très bien. J'ai perdu un peu de ma pudeur initiale. Oui.
Alors vous assumez très bien votre dernier texte, toujours aux éditions Mutine, qui a un titre volontiers, en tout cas provocateur, en tout cas clin d'œil encore. C'est comme Folcoche finalement aux éditions Mutine. Il y a toujours des clins d'œil à d'autres textes, sans doute des intertextes aussi au niveau des titres. Famille, je t'aime, mais je t'aime orthographié T-H-E accent grave M-E.
Oui.
De quoi s'agit-il ? Alors déjà, c'est un recueil de nouvelles.
C'est un recueil de nouvelles. Bon, d'abord, quelque chose sur le titre. Le titre est très important parce que souvent, il y a deux choses importantes pour vendre un livre. C'est le titre et puis le quatrième de couverture. Donc il faut trouver des titres choc, des titres qui accrochent. Celui-là m'est venu naturellement. Donc la famille, nous savons tous que la famille, c'est la chose la plus indispensable à la vie, puis ça peut être aussi la chose la plus difficile à vivre, à traverser dans cette vie, quoi. Donc c'est six nouvelles qui tournent tout autour de la famille, bon, des grands-pères, des grands-mères, de la femme, de...
Et la quatrième de couverture précise donc des situations rocambolesques, du suspense, des personnages hauts en couleur et toujours l'humour, souvent noir, de Bernard Châtelet, la marquise de Sévigné du monde des camionneurs.
Bah, le quatrième de couverture appartient à l'éditrice, c'est elle qui prend la responsabilité d'écrire ça, je ne sais pas, donc... Oui, je pense que c'est vrai, oui.
Bernard Châtelet, qui répondait à nos questions à la 15e fête du livre d'Autun. Parmi les éditeurs présents dans la cité éduenne, il y avait les éditions de l'Escargot Savant et sa déléguée Brigitte Delgado qui évoque à notre micro l'actualité éditoriale de l'Escargot Savant.
En fait, nous avons trois ouvrages cette année. Les Mères de Dijon d'Alain Bellassen, l'auteur. Un ouvrage qui nous emmène rencontrer 50 biographies passionnantes sur 8 siècles d'histoire. C'est un livre où vous saurez non seulement qui étaient ses mères, mais vous verrez défiler l'histoire de la région, des ducs de Henri IV à Louis XIV, à MacMahon, Bonaparte ou à la Libération. Voilà, donc un beau livre à découvrir, 8 siècles d'histoire, Les Mères de Dijon d'Alain Bellassen aux éditions L'Escargot Savant.
Alors il y a aussi maintenant aux éditions de l'Escargot Savant une collection de romans et plus spécifiquement des polars.
Tout à fait, donc un ouvrage que je diffuse actuellement, un ouvrage de Jean Bérénice, Cartacis en Bourgogne, des assassinats en série, des scènes de crime qui se passent sur le canal de Bourgogne, dans les bois, à Montbard, la police de Dijon qui intervient. Un bel ouvrage, voilà, à découvrir et
dont on peut profiter auprès de tous les libraires et dans de nombreux lieux de vente où l'on peut trouver les ouvrages des éditions de l'Escargot Savant. Les éditions de l'Escargot Savant, une maison d'édition qui se porte bien, Brigitte Delgado.
Tout à fait, c'est une maison d'édition qui existe depuis 2004, mais... En fait, notre premier ouvrage a été Les pigeonniers et colombiers de la Côte d'Or, qui est paru en 2007. Et aujourd'hui, nous avons les sites et monuments remarquables de la Côte d'Or, de Philippe Ménager, qui d'ailleurs va nous le présenter.
Oui, nous l'avions d'ailleurs rencontré l'année dernière, c'était la 14e fête du livre l'an passé. Alors Philippe Ménager nous avait présenté Les canaux bourguignons, histoire d'un patrimoine, et il récidive, parce que c'est un jeune homme de 30 ans, il récidive avec sites et monuments remarquables de Côte d'Or, n'en déplaise aux iconais. Philippe Ménager, la passion vous guide, passion, érudition, attachement au patrimoine et à l'histoire. Finalement, vous ne sortez jamais de ce cercle infernal de la Côte d'Or, de l'histoire et du terroir.
Oh, si je sors du cercle infernal, comme vous dites, de la Côte d'Or, je reste bourguignon avant tout, je le rassure. Et je rassure nos amis iconais, les sites et monuments remarquables de Lyon est à venir. Laissez-moi le temps de visiter entre 250 et 300 sites dans Lyon, ce qui évidemment ne se fait pas en deux matins, de rédiger, de photographier l'ensemble de ces sites et monuments pour que je vous présente avec plaisir l'ouvrage consacré à Lyon. En attendant, effectivement, j'ai eu le loisir de faire celui sur la Côte d'Or et celui sur la Saône-et-Loire. À chaque fois, c'est toujours le même plaisir, c'est donner envie aux gens de découvrir les richesses patrimoniales de sites qui souvent sont proches de chez eux, mais que trop souvent ils méconnaissent. Un site peut être de notoriété mondiale, néanmoins, souvent il nous manque le détail, il nous manque l'anecdote qui va offrir du sens, va donner un regard nouveau. Et moi, c'est cette volonté, ce plaisir de développer la curiosité, de donner envie aux gens de retourner sur les lieux, de voir et se dire « Ah oui, tiens, ça je ne l'avais pas vu ».
Alors, un exemple d'anecdote, par exemple, autour d'un bâtiment, d'un château ou d'un site connu en Côte d'Or.
On va prendre un site très, très, très connu. Le Clos de la Romanée-Conti. Hein, Vame, s'il en est merveilleux, tout ça. Imaginez-vous que potentiellement, le nom de ce clos de très bon vin rouge aurait pu être associé à un nom que l'on associe plutôt à la bière. Durant 3 siècles, la propriétaire était la famille Cronenbourg. Hein? Bon, et un jour, le fils Cronenbourg, pour solder les droits de succession, eh bien, a vendu le clos. Et c'est le prince de Conti qui l'a racheté. Or, on pourrait en plus s'amuser à voir les querelles qui ont eu lieu entre le prince de Conti et Madame de Pompadour. L'un et l'autre ne pouvaient pas se voir. Donc, Conti a dit, j'y mettrai le prix, même si c'est beaucoup plus, trop cher, pour que Madame de Pompadour ne l'ait pas. Et la nique suprême qu'il fit, c'est qu'il a conservé toutes les bouteilles pour lui, alors qu'à l'époque, le Romanée Conti était considéré comme un excellent remède médicinal. Louis XIV, lorsqu'il avait eu des vistules, eh bien, les avait soigné au Romanée Conti.
Philippe Ménager, auteur de Sites et monuments remarquables de Côte d'Or que vous venez d'entendre, il sera l'invité de Wagon Livre sur Radion le mercredi 23 mai prochain à 21h et nous parcourrons avec lui la Côte d'Or à la découverte de son patrimoine et de son histoire. On se retrouve dans quelques minutes. Je vous laisse en compagnie de Gérard Lenormand. Et oui, j'ai choisi pour vous toutes et tous un titre de 1975, un titre évocateur, La Ballade des gens heureux.
Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux.
Un clin d'œil amical à Barbara Moreau et Christian Flamand, nos deux sympathiques iconés présents à Autun les 14 et 15 avril derniers pour la 15e fête du livre dans cette capitale éduenne autour du thème de la mémoire. Et effectivement, quand on parle de mémoire, il faut mentionner le tome 3 des chroniques d'une conteuse de mémoire de Barbara Moreau qui a pour titre « C'est ma tournée » et qui est disponible chez nos libraires aux éditions petit kebab. Nous nous ferons d'ailleurs d'ici quelque temps un plaisir de la recevoir devant notre micro pour partager la suite des aventures de Gadine dans la Nièvre. Et tout comme le pépé de Gadine, voici un gars du cru, un morvandieu de Montsauche, Pierre Léger, auteur de « Délivrez-nous du marbre » qu'il est venu présenter à Autun.
Je suis tombé un jour sur le cimetière de la bonne commune de Montsauge dont je suis originaire, sur cette tombe-là, un jour de printemps où il y avait ces jacinthes sauvages qui étaient poussées exactement dans le rectangle de la tombe. Et à côté de toutes les tombes en marbre, de plusieurs couches de marbre successives, je me dis, celle-là de très très loin, avec ses grilles de fer forgé un peu rouillées tout autour, et de très loin la plus belle, la plus poétique, la plus émouvante. Et évidemment, j'ai fait la photo. Bon, je crois qu'une bonne quinzaine de jours après, les cantonniers ont dû mettre du désherbant, mais ils ne se sont pas rendus compte à quel point c'était beau. Et donc ça m'a donné l'idée du titre déjà, parce que quand on a un titre, on peut des fois écrire un livre. Et à partir de ce titre-là, je me suis fait un montage à ma petite sauce, qui est encore pire que le précédent. C'est-à-dire que là, je suis parti plutôt de la mort de ma mère. La mort de ma mère qui faisait écho à cette tombe. Et donc j'ai enfilé des textes de un peu plus récents, puisque là, les derniers ont été écrits en 2011, que j'ai monté autour d'un personnage. Il y a un personnage qui s'appelle Double Clic. Double Clic étant une sorte de Don Quichotte sur l'ordinateur, quoi, et qui fait écho entre le passé et le présent en même temps, qui est un peu l'argument pour pouvoir enfiler toutes ces histoires. Alors il y a des contes, il y a des nouvelles, il y a des poèmes, et comme le précédent, j'arrive à quelque chose d'improbable.
Alors est-ce que vous êtes amené à produire un prochain texte là ?
Oui, mais j'ai tellement de trucs en chantier que je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, il y a un truc qui te servira, qui ne sera jamais publié, que peut-être qu'après ma mort, que les associations reprendront. J'ai l'ambition d'essayer de rassembler l'anthologie de la littérature en bourguignon morvandio, c'est-à-dire ma langue maternelle. J'ai parlé patois jusqu'à l'âge de 7 ans et je parlais patois jusqu'à pratiquement toujours. Et donc je suis un militant de cette langue, parce qu'il s'agit bien d'une langue qui a une littérature ancienne. Contrairement à ce qu'on croit, tout le monde croit que c'est un vulgaire patois qui n'est parlé que par des conducteurs de bœufs aujourd'hui enterrés. Et j'ai l'intention de rassembler et de montrer à quel point cette littérature-là est intéressante, humaine, riche de sens. C'est pour ça que je suis aussi président de l'Association des langues de Bourgogne. Voilà.
Très bien. Alors on rappellera « Délivrez-nous du marbre » de Pierre Léger, un recueil d'histoires, de nouvelles et de propos divers. Et comment faire pour se procurer votre Délivrez-nous du marbre ?
Alors là, c'est pas simple, je vais vous dire, parce que c'est un livre, celui-là est auto-indité. Il faut le chercher ou alors me le commander à moi-même, voyez-vous. C'est du livre de proximité. Je ne passe par aucun diffuseur. Si on en a très envie, on essaye de me trouver. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, mon courriel, parce que Double Clic, il a un courriel. 03 85 44 20 68, c'est mon numéro de téléphone. Et mon courriol en patois. pplc.leger@sfr.fr. Comme quoi on peut passer du patois à Double Clic.
Quelques manifestations et rendez-vous culturels dans les jours et semaines à venir, à commencer d'abord par un spectacle de théâtre, Cabaret Sketch Karl Valentin, proposé par la compagnie Les Baladins d'Éon, mise en scène et direction d'acteurs de Aldo Magno, c'est ce vendredi 4 mai à partir de 20h30 à la salle polyvalente de Tonnerre, réservation à l'office de tourisme de Tonnerre au 03 86 55 14 48 ou alors au 06 80 41 14 46, vendredi 4 mai, cabaret sketch Karl Valentin, par la compagnie des Baladins d'Éon sous la direction d'Aldo Magno. Le 15 mai prochain à 18h30 à Auxerre, cette fois-ci à la Maison Paulbert, rencontre avec Olivia Gazalet. Il s'agira d'une conférence autour du dernier ouvrage d'Olivia Gazalet qui a pour titre « Je t'aime à la philo », une conférence qui reviendra sur la manière avec laquelle les philosophes abordent les thèmes de l'amour et du sexe. C'est un rendez-vous organisé par le Cercle Condorcet d'Auxerre le 15 mai prochain à partir de 18h30. Le 16 mai à 19h au Théâtre d'Auxerre, à l'initiative des Amis du Théâtre, lecteurs amateurs ou professionnels, musiciens et danseurs du Conservatoire se relaieront à partir donc de 19h au Théâtre d'Auxerre pour une lecture intégrale, s'il vous plaît, du roman de Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. À signaler également une exposition de peinture au grenier à sel d'Avallon, exposition de peinture qui a pour titre New York 1997. La ville d'Avallon invite effectivement Laurent Chanel, photographe avallonnais, à présenter ses clichés couleur et noir et blanc pris lors de son voyage à New York. C'est jusqu'au 9 mai prochain au grenier à sel à Avallon. Et puis, je voudrais mentionner l'ouverture très prochainement, c'est le jeudi 10 mai, l'ouverture officielle de la deuxième édition du Festival de Curiosité, c'est à Montbard. Et le thème cette année du Festival de Curiosité, c'est le thème du poil. C'est un festival qui proposera sur à peu près plus de 15 jours 22 expositions de photographies, de sculptures, d'objets design, des projections, des installations au musée Buffon, 6 spectacles, des concerts, du théâtre, des soirées cabaret, 13 dits et écrits, des séances de dédicaces, des rencontres, et puis un temps fort pour la ville de Montbard, toujours dans le cadre du festival de curiosité autour du thème du poil, jumelage de la ville de Montbard avec le village de Poil dans la Nièvre, le programme complet du festival de curiosité de Montbard sur le site de la ville organisatrice www.montbard.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 9 mai à partir de 21h, pour la deuxième et dernière partie du compte-rendu du Salon du Livre d'Autun. Vous pourrez la semaine prochaine entendre Nelson Montfort, Jacqueline Monsigny, Françoise Laborde, Zoé Valdès, Alma Brami, un très grand nombre d'auteurs présents à la 15e fête du Livre d'Autun. Merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.